Ce que j'aime le plus, c'est l'aventure. Partir en rando, en bivouac, dormir sous les étoiles, prendre le large, apprendre à faire de l'apnée, surfer au lever du matin. Mais parfois, c'est pas facile de trouver les copines disponibles et motivées pour partager ce genre d'aventure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te présenter Audensia. Audensia, c'est une petite agence créée par Maeva qui propose des séjours aventure et bien-être 100% féminin. Au programme, un week-end randonnée à ski avec deux nuits en refuge au cœur des Alpes. De la voile d'hiver et d'été dans les fjords en Norvège. Une rando à cheval et bivouac sur plusieurs jours à travers les Pyrénées. Le tout avec du yoga, de la méditation. Bref, c'est le programme de mes vacances de rêve. Rien besoin d'organiser, juste profiter avec des meufs trop cool. Si tu écoutes ce petit message et que tu embarques toi-même sur un séjour Audensia, n'oublie pas de dire à Maeva lors de ton inscription que tu viens de ma part pour bénéficier d'un petit cadeau de moi-même. Pour découvrir tous les séjours Audensia, rendez-vous sur audensia.com. Épisode 138 avec Lena Sato. Bienvenue dans la saison 4 de mon podcast. Moi, c'est Anouk, je suis professeure de yoga, une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, un nouvel épisode de moi ou de mes invités, pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Pour recevoir plus d'informations et de partages, rendez-vous sur mon site internet anoukcoroller.com et inscris-toi à ma newsletter. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer Lena Sato, qui est une apnéiste franco-japonaise passionnée par la communication interespèce avec les animaux marins. Elle est également la fondatrice du projet Anima au Japon, engagée dans la sensibilisation de la cause des cétacés, victimes de la chasse dirigée contre les dauphins et de l'industrie de la captivité. Elle en parle plus dans l'épisode. Lena propose régulièrement des retraites dans les mers et les océans du monde pour initier à l'apnée méditative et à la rencontre avec les animaux marins. Je viens de terminer le dernier livre qu'elle a écrit avec également Anne Paris et Marie-Hélène Sulmoni, qui s'appelle « Les voies de l'eau », un livre paru chez les éditions Mama, qui est tellement sensible, poétique, et qui décrit la relation qu'ont ces trois femmes à l'eau. Et c'est vraiment un magnifique livre, je vous le recommande grandement. Dans l'épisode, Lena nous raconte donc sa relation à l'océan et ce qui l'a amenée à plonger avec les cétacés. Elle nous parle également de la communication sensible qu'elle a développée avec le temps pour entrer en lien avec les cétacés. Ce que cette relation lui a apporté dans sa vie et lui apporte encore. Nous parlons également d'activisme sacré, de ce que lui a apporté l'apnée et tellement plus. Pour connecter avec Lena, retrouver ses projets, la soutenir ou embarquer avec elle sur une aventure, rendez-vous sur la fenêtre de l'épisode où vous trouverez tous les liens vers ses projets respectifs. Prenons une longue inspiration ensemble et plongeons dans l'univers de beauté de Lena Sato. Merci Lena d'être sur ce podcast. Je suis tellement heureuse de te recevoir. Alors, pour la petite histoire, j'ai entendu ta voix pour la première fois sur le podcast d'une amie qu'on a en commun qui s'appelle Victoria, qui a le podcast Nouvel Œil. Suite à ça, j'ai vu le documentaire que tu as co-réalisé avec ton ex-compagnon qui s'appelle Mère Océan, qui est absolument incroyable. J'invite tous ceux qui nous écoutent à aller le voir, parce que c'est vraiment très très beau. Et j'ai été tellement prise à la fois d'admiration, tellement touchée par ta sensibilité, que je me suis dit un jour, je veux plonger avec Leïna. Et c'est chose faite puisque j'ai embarqué en décembre 2023 pour un stage avec toi et Camille Sfez. Et c'était absolument fantastique. Tu as une façon de guider les gens à reconnecter avec leur sensibilité et leur permettre de rentrer en connexion avec le monde sauvage qui est juste très juste et douce et à la fois pleine d'humour. Donc, je te remercie pour cette expérience et pour qui tu es. Et pour ceux.
Merci Annick.
Merci à toi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux partager ton lien avec l'océan? Comment est-ce qu'il s'est fait? Et aussi, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de plonger avec les cétacés et aujourd'hui, c'est quelque chose vraiment qui t'anime? Comment est-ce que ce chemin s'est fait?
Alors, je crois que ce chemin, il a commencé par une fascination d'enfance, comme on peut tous en avoir. Voilà, donc j'étais fan des dauphins, des baleines, et c'était vraiment quelque chose de très simple. Donc je lisais beaucoup d'ouvrages à leur sujet, et je me rappelle avec ma meilleure amie au collège, on se disait bah, peut-être qu'un jour, on sera biologiste marine et on sera amené à vivre ces expériences, voilà, qu'on découvrait à travers ces témoignages extraordinaires de chercheurs, d'artistes et de plongeurs qui avaient la chance de vivre cette connexion très intime avec les cétacés. Donc, c'était vraiment l'ordre du rêve et ce qui s'est passé. Donc, à l'époque, je vivais à Paris. J'étais élevée à Paris. Je suis japonaise, mais mes parents ont déménagé à Paris quand j'avais 1 an et demi avec moi. Et donc, voilà, toute mon enfance s'est faite dans une école classique parisienne, puis après le collège, le lycée français. Et puis, à 14 ans, j'ai été traversée par une grosse dépression. Et je me souviens encore très bien du soir. En fait, je me trouvais à Hawaï. On vivait pas encore là-bas, donc on était là en vacances avec ma mère et c'était un super hôtel en bord de mer. Et tout à coup, c'est comme si un énorme nuage noir était arrivé au-dessus de ma tête. Et il y a cette tristesse, cette lassitude profonde qui m'a envahie et je me suis dit, bon, bah voilà, je vais juste aller me coucher, et ce sera, voilà, ça va passer. Demain matin, voilà, ce sera, je serai redevenue normale. Et en fait, pas du tout. Pendant 1 mois, tous les jours, j'ai pas arrêté de pleurer, alors que quand même, on était en vacances à Hawaï. C'était un peu le comble. Mais c'est comme si toutes ces émotions que j'avais pu refouler, parce que j'étais quelqu'un de finalement très introverti, très timide, très réservé. Et c'est comme si toutes ces émotions, toutes ces choses, voilà, inexprimées que j'avais pas pu extérioriser, avait fait céder un barrage émotionnel. Et il y a eu cette forme d'écroulement, cette espèce de vague qui m'a emportée et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Puis après, les vacances d'été sont terminées, c'était la rentrée. J'ai réussi à peu près à me recomposer pour la rentrée. Et puis après, au bout de quelques semaines, en fait, toute cette structure assez brinque-ballante s'est effondrée de nouveau et il y a eu cette espèce de nuit noire de l'âme qui a duré pendant, je sais pas, 2, 3 mois, c'était long. Et je me souviens que j'arrivais plus à sortir de ma chambre, enfin de chez moi. Et il y avait que ma mère à ce moment-là. Elle me disait, c'est comme si j'avais une zombie à la maison. Donc ma mère, extrêmement concernée quand même, en voyant que ça passait pas. Bah il y avait ses amis qui disaient, bah emmène-la voir un psy. Donc elle allait voir le psy toute seule. Et puis bah ça l'a pas trop inspirée. S'est dit, bah je crois que ça va la déprimer encore plus en fait de le voir. Et tout à coup, elle a eu cette inspiration de faire appel à une amie de la famille qui est forme de thérapeute, guide spirituelle japonaise, enfin que moi je connaissais depuis mon enfance, mais juste comme une amie de ma mère. Et voilà, jusqu'à ce jour-là, je m'étais jamais vraiment intéressée à la spiritualité, au développement personnel. C'était, je savais que ma mère faisait ce genre de trucs, mais bon, pour moi, c'était vraiment un autre univers. Et tout à coup, ma mère me dit, mais est-ce que tu serais d'accord que Ayako vienne vivre avec nous pendant 1 mois et peut-être qu'elle peut t'aider? Et moi, du fond de mon gouffre, j'ai dit oui. Alors, je ne sais pas pourquoi je disais oui, mais c'était comme une espèce de lumière au bout du tunnel. Je me suis dit, bah, peut-être qu'elle va pouvoir m'aider. Et en fait, c'est cette femme qui est venue habiter avec nous et elle a fait un travail extraordinaire avec moi. Ou pour résumer en quelques phrases, en fait, j'ai réalisé que pendant des années, alors pas toute ma vie, parce que je pense que j'ai une enfance heureuse et que j'étais épanouie, mais à un moment, il y a eu cette forme de cassure où tout à coup, en fait, j'étais victime. J'avais peur, en fait, du monde, des autres, de mon environnement. Et en fait, j'avais le sentiment que tout arrivait de l'extérieur. Et elle me disait, mais en fait, non, tu co-crées ta réalité. Et surtout, c'était, mais en fait, toutes ces émotions qui traversent, ce n'est pas toi, Leïna. Et quand je dis, mais si je suis pas mes émotions, qu'est-ce que je suis? Et elle m'a répondu, cache, tu es une conscience infinie. Alors là, je crois que je l'ai regardée, genre, je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Mais quelque chose dans la vibration, en fait, qu'elle m'a transmise, et quelque chose qui est entré en résonance à l'intérieur de moi. Et je parle de tout ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé plus tard avec les cétacés. Et aussi, ce regard qu'elle a porté sur moi, qui par la suite m'était, voilà, j'ai l'impression de retrouver chez les dauphins et les baleines, c'est comme si elle allait chercher quelque chose au fond de moi que j'avais oublié, cette espèce de lumière, et qu'elle faisait remonter sa lumière à la surface, et que finalement, elle voyait pas la Leïna malade, dépressive, mais qu'elle allait vraiment, au fond, qu'elle allait voir mon âme, mon essence, et que c'était la première fois qu'une personne portait un regard comme ça sur moi, et que c'était un regard qui libérait. Et donc, elle m'a partagé beaucoup de choses qui me sont un peu passées par-dessus la tête quand j'avais 14 ans, mais il y a une phrase qui m'a vraiment marquée, elle me disait, mais suis ce qui te met en joie. Parce que cette joie, cette vibration que tu peux ressentir dans ton corps, dans tes cellules, en fait, ça t'indique que tu es aligné sur ta vérité, sur ce qui est juste pour toi. Et cette joie, ça va être ta boussole. Et pour moi, la joie, en fait, ça pointait dans la direction de l'océan, des cétacés. Suite à cette dépression, enfin, quand j'ai commencé à sortir de cette dépression, il y a plein d'éléments dans ma réalité extérieure qui a commencé à bouger. Et en fait, 6 mois après, on déménageait à Hawaï avec ma mère. Donc, on quittait Paris pour la grande île à Hawaï. Et voilà. Forcément, j'étais plus proche de la mer et des cétacés qu'à Paris. C'est un peu comme ça que ça s'est passé.
Et on imagine que tu as vraiment continué à suivre ta joie parce qu'aujourd'hui, pour enfin, moi, quand je pense à toi, c'est vraiment une émotion qui te définit pour moi. Je vois ça émaner de toi.
Merci. Ça veut dire que j'ai dû accomplir un long chemin. Non, parce que pendant des années, même jusqu'à récemment, j'étais un être profondément mélancolique. Je crois qu'il y a toujours eu cette nostalgie du sacré, de cette reliance avec le tout, que finalement je pouvais retrouver dans l'océan très facilement. Mais dès que je remontais sur le rivage, c'était moins évident. Et je crois qu'il y avait toujours quelque part cette division intérieure de ben, je vis des choses tellement intenses et tellement évidentes dans l'eau avec les cétacés, et sur Terre, c'était beaucoup plus compliqué. Et je crois qu'il y avait vraiment cette résistance aussi par rapport à l'incarnation et à l'ancrage. Et tout ça, finalement, a commencé à changer bah, grâce aux cétacés aussi. Et après, c'est mes enfants qui ont un peu pris la relève d'une manière tout autre. Mais voilà, les enfants, enfin, la maternité, ça t'ancre puissamment. Enfin, t'as pas le choix que de t'ancrer pour devenir mère. Donc, ouais. Mais la joie, je crois que ça soit Ayako ou les dauphins, et je pense que tu l'as ressenti très fort à Sataya, qui, pour moi, incarne vraiment cette joie, bah, d'être incarné dans la matière. En fait, ils habitent leur corps de manière tellement joyeuse, élégante et sensuelle, que j'avais vraiment besoin des maîtres qui vibraient haut comme les dauphins pour me sortir de cette mélancolie. En fait, pour me rappeler à chaque fois, mais en fait, tu es cet être de joie, tu n'es pas cette dépression. Voilà, c'est pas ça qui te définit.
Et justement, j'aimerais que tu nous parles plus de ces ressentis que tu peux avoir lorsque tu es dans l'eau et aussi lorsque tu es dans l'eau avec les cétacés. Notamment, donc, tu as coécrit un magnifique livre avec deux amies à toi, Anne Paris et Marie-Hélène Sulmoni. Et dans ce livre, donc dans ton passage, puisque dans ce passage, tu racontes en fait ton histoire, ton chemin avec l'eau, ta relation avec l'eau, avec l'océan, À un moment donné, il y a un passage dans lequel tu expliques ben, un moment donné où tu es dans un groupe de dauphins et en fait les dauphins jouent ensemble et tu te retrouves ici et tu décris un petit peu tes sensations physiques là-dedans et j'aimerais que tu nous en parles plus si tu veux bien. Donc à un moment donné, tu dis donc le mien se traduit par une sensation physique d'ouverture, de chaleur au niveau de ma poitrine, un signal biophysique et vibratoire qui part naturellement de moi vers lui et vers les autres aussi. Donc il y a quelque chose de vraiment de l'ordre du ressenti qui se passe, des signaux que tu apprends à comprendre en fait comme un langage que tu partages avec eux.
Oui, alors au début c'est quelque chose de très intuitif, hein. Enfin, je suis rentrée là-dedans un peu comme une exploratrice, je dirais, avec la sensation d'être un peu Alice face au miroir, tu vois. Enfin, je vois les dauphins, mais je sens que y a ce gap entre nos deux réalités. Et au début je me sens juste observatrice et témoin, et après il y a cet élan en fait de vouloir communiquer avec eux finalement. Mais la phrase que tu viens de lire, je crois que ces sensations, elles ont commencé vraiment à s'affiner, je sais pas, au bout de 2 ans. Tu vois vraiment le fait d'être au quotidien avec eux presque tous les jours. Et puis de voir, OK, voilà, je dis c'est un signal biophysique. Effectivement, je pense que c'est le cas, mais c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'ouverture du cœur. Et ça peut paraître très plan-plan, mais même à Sataya, quand on y était ensemble, parfois, quand je dansais avec un dauphin, et quand on danse avec un dauphin, bah, souvent on est ventre contre ventre, on ne se touche pas, mais le dauphin arrive avec vraiment son ventre offert, sa partie la plus vulnérable quelque part, voilà, avec son cœur, pas contre mon cœur, mais voilà, vraiment de cœur à cœur. Et parfois, je sentais, que ce soit dans son regard ou dans son énergie, quelque chose de mais ouvre ton cœur. Encore plus, tu peux. Et ces sensations presque physiques, parfois douloureuses, de cette poitrine qui essaie de se dilater encore plus et qui n'arrive pas totalement. Et je sentais vraiment à quel point mon cœur, il peut encore parfois être fermé ou carapaçonné. Et que là, ils arrivent et en fait, ils font péter l'armure, quoi. Et dans les moments où je suis vraiment dans le flow avec eux, bah, je sens clairement, ouais, qu'il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de la poitrine et vraiment un truc, un élan, une énergie qui part vers eux. Et après, je le fais de manière consciente. Bon, parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais vraiment comme une invitation énergétique de dire, OK, je suis là, je suis présente et bah, je serais ravie d'interagir, de danser, de jouer, de nager avec toi si toi tu es disponible aussi.
Et qu'est-ce que tu dirais, ils t'ont appris le plus, les cétacés, toi, en tant qu'humaine, qu'est-ce qu'ils t'apprennent le plus?
La première rencontre, donc c'était avec un baleineau, et je le décris dans le livre, c'était pas une épiphanie, mais ça s'est vraiment passé dans le regard du baleineau, où, ouais, ça paraît bête, mais c'était comme si je m'autorisais pour la première fois à être pleinement qui je suis, de m'être complètement à nu et vulnérable. Et je pense que c'était une période dans ma vie, bah voilà, 16 ans, où bah, je suis ado, j'ai envie de plaire. J'ai envie de créer des liens, j'ai envie d'être aimée, j'ai envie d'être reconnue. Donc, je porte plein de masques, finalement, de personnages, parfois sans en avoir conscience. Et là, tout à coup, dans ce regard qui m'enveloppait, c'était juste la présence. Et c'était tellement bon et tellement quelque part rafraîchissant de sentir, bah, ouais, complètement. C'est même pas dans cette authenticité, c'est de se mettre à nu et de sentir complètement en confiance. Et relié à l'autre, sans aucun effort. Donc ça, cette sensation, elle m'a beaucoup portée, parce que je crois qu'une fois que c'est inscrit quelque part dans notre être, et presque de manière physique, je pouvais aller recontacter cet état d'être, cette fréquence. Et fait de me dire, bah voilà, c'est le baleineau qui a initié ça, et en même temps, il a révélé quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Donc, bah forcément, je peux le reproduire, ou je peux me reconnecter à ça dans mes autres relations, notamment mes relations humaines. Même si c'est moins simple. Après, les dauphins, c'était très similaire, mais avec eux, il y a aussi quelque chose de très fort dans la reconnexion à mon féminin, à mon corps, à cette sensualité. Et je pense l'élément eau aussi a énormément contribué, parce que bon, bah, on l'a constaté à Sataya aussi ensemble, mais les dauphins sont des êtres tellement dansant, sensuel, amoureux. Ils font l'amour tout le temps. On voit que c'est très léger, en même temps très sacré et simple pour eux. Et ouais, ça m'a beaucoup à la fois inspirée et déculpabilisée. Parce que je n'ai pas toujours eu un rapport très, très simple à ma sexualité quand j'avais genre 17, 18 ans. Et une mère qui finalement n'était pas très connectée à ça, qui voulait pas trop aborder le sujet. Il y avait vraiment une couche de culpabilité autour de ben voilà, la sexualité et tout ça. Et là, tout à coup, j'observais ces dauphins et je me disais, mais en fait, c'est tellement beau, cet acte d'amour. Donc, dans ce sens-là, ça m'a beaucoup porté aussi. Puis après, ça a évolué en d'autres choses. Je pense que les premières années, il y avait vraiment plus un chemin de guérison personnelle. Je pense beaucoup plus centré sur moi, même si c'était pas réfléchi, mais je pense qu'il y avait ce besoin de. J'ai beaucoup, beaucoup reçu, en fait, durant ces premières années. Et puis après, ça a commencé à basculer dans autre chose où bah, je me sentis vraiment remplie et j'avais le sentiment que. Enfin, c'est pas les dauphins qui m'envoyaient des messages, mais comme s'ils me disaient, mais écoute, tu as beaucoup reçu, maintenant serait peut-être bien de donner la mesure de ce que tu as pu recevoir. Et donc au début, c'était dans des choses très simples. On avait une compagnie d'écotourisme à Hawaï, voilà, que j'ai fondée avec mon copain à l'époque, qui était champion du monde de l'apnée à l'époque. J'avais 21 ans et donc on a amené beaucoup de personnes bah, à la rencontre des dauphins, des requins, des baleines. Et ce qui était très touchant, c'est que souvent, c'était une clientèle japonaise et cette clientèle japonaise avait très peu d'expérience du snorkeling ou de nager où ils avaient pas pied, quoi. Et en l'espace de 4 heures, il fallait les accompagner pour qu'ils dépassent leurs limites, leurs peurs. Et parfois, nager dans une eau, tu vois, sous eux, il y avait 2000 mètres de profondeur. Et ils se retrouvaient là avec des requins, des globicéphales. Et donc, d'être dans cet accompagnement, il y a quelque chose qui était très, très fort pour moi. Et puis après, bah, ça s'est encore élargi dans, je dirais, plus une conscience du vivant, une conscience de, voilà, ce désir de s'engager pour, bah, pour la biosphère, pour les océans, pour la protection. Quand j'ai commencé à sortir de cette bulle très privilégiée des eaux hawaïennes, bah, où je suis partie en voyage, où j'ai accompagné des expéditions scientifiques et où je réalisais qu'il y avait énormément de destruction et de corruption. En fait, il y a une histoire très très belle, un très beau témoignage que j'ai recueilli quand bah, je suis partie sur l'une de ces expéditions scientifiques. C'est sur un voilier de recherche qui s'appelle MIR de la Fondation Biosphère. Ils ont d'ailleurs un très beau centre maintenant à Bali. Et donc, c'était dans le cadre d'un projet de film qui s'est jamais fait, mais c'était avec les mêmes réalisateurs, c'était avec Anne Paris et Yann Kounen. C'était un projet qui précédait celui de la grossesse océanique, parce qu'à l'époque, j'étais pas encore enceinte. Et je voulais absolument aller interviewer cette femme qui s'appelle Abigail Oling et qui est devenue, enfin, au-delà d'une grande amie, c'est comme une guide, quoi. C'est un peu comme un mentor, grande figure d'inspiration. Et ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a participé dans un projet qui s'appelle Biosphère 2, qui a existé dans les années 90. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à aller voir ce que c'est. Et en quelques mots, en fait, ils ont recréé une seconde biosphère, une biosphère miniature, dans le désert de l'Arizona, il me semble, pour mieux comprendre le fonctionnement de la biosphère terrestre. Et donc, c'était une immense structure en verre, avec une atmosphère différente de celle de la Terre. Donc, c'est vraiment un système fermé, avec presque tous les biotopes qui existent sur la Terre, y compris une mer intérieure. Et donc, elle a passé 2 ans et demi là-dedans. Elle a vécu là-dedans avec cette autre personne. Mais avant ça, elle a passé 4 ou 5 ans au Sri Lanka sur un voilier de recherche au contact des baleines bleues et des cachalots. Et elle me racontait notamment sa première rencontre avec un cachalot dans l'eau, cette rencontre avec le regard. Et il y avait quelque chose de très puissant dans son témoignage pour moi parce que ça venait d'une scientifique. C'est une femme qui est très ancrée, très rigoureuse dans ses recherches et en même temps très ouverte à l'invisible, on va dire, à l'intuitif, au subtil. Et donc, on était en quart de nuit ensemble, voilà, on faisait la nav, et puis elle me parle de cette rencontre, et puis elle me dit, bah, elle me dit à un moment, bah, en fait, je suis tombée dans l'œil du cachalot. Et je lui dis, ah bon? Je me dis, c'est quand même extraordinaire qu'une scientifique me dise qu'elle est tombée dans l'œil d'un cachalot. Et j'ai osé lui demander, mais est-ce que tu as vu quelque chose dans cet œil? Parce que j'avais eu une expérience similaire où je suis tombée dans l'œil d'un dauphin. J'ai été aspirée dans l'œil d'un dauphin. Et il y a eu un temps de silence et elle m'a dit, oui, en fait, j'ai vu la biosphère. C'était un message d'amour immense pour la biosphère. Et la manière dont elle a dit ça, c'était tellement simple et tellement profond. Et elle me dit, il y avait, on sentait tellement d'intelligence dans ce regard, mais c'était pas comme si elle me communiquait des informations, mais c'était vraiment une vibration qui venait du fond de son être, de ce cachalot. À partir de ce moment-là, elle a vécu une relation extraordinaire avec ce clan de cachalot pendant 5 ans. Et donc, on parlait de nos expériences respectives. Et puis, à un moment, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais tu sais, Laïna, pour des personnes comme nous qui avons eu le privilège de vivre ce genre d'expérience, on a une responsabilité maintenant, on a un devoir. Et là, je l'ai regardée, j'ai fait OK. Et je crois que c'est de là que cette envie, en fait, de s'engager est née. En fait, elle était là depuis très longtemps, mais il y avait une part de moi qui me disait, mais en fait, qu'est-ce que moi je peux faire? Je suis pas une activiste, je suis pas une scientifique, je suis pas une spécialiste. Quelle différence moi je peux faire dans cet univers? Et ça a mis du temps à se manifester. Ça a cheminé pendant ouais, presque 10 ans jusqu'à ce que bah, ça prenne forme dans ce projet qui s'appelle Projet Anima, que j'ai initié il y a 3 ans, qui est un projet de sensibilisation au Japon en solidarité avec les baleines et les dauphins qui sont encore victimes de la chasse et de l'industrie de la captivité. Mais je crois que j'aurais pas pu le faire sans vivre au Japon. C'est pas quelque chose que j'aurais pu initier de l'extérieur parce que j'ai beaucoup de choses que j'ai compris en habitant là-bas, parce que c'est la première fois que j'habite au Japon, en fait. Et déjà de me rendre compte que, je dirais, 85% de la population n'est pas au courant que cette chasse aux dauphins a lieu à Taichi tous les ans, depuis les années 60. Je dirais.
Peux nous en parler un petit peu plus d'ailleurs pour ceux qui savent pas.
Oui, donc en fait, il y a ce documentaire qui est sorti, je crois, il y a 10 ans, qui s'appelle The Cove, qui a été réalisé par, je ne sais pas prononcer son nom, je suis désolée, mais voilà, qui a été produit par la Oceanic Preservation Society et dans lequel apparaît Rico Barry. Donc en anglais, c'est The Cove et en français, je crois, c'est La baie de la honte. Et c'est ce documentaire qui va vraiment mettre la lumière sur cette pratique qui n'est pas traditionnelle, mais qui existe depuis les années 60 dans la ville de Taiji, qui est une petite ville côtière, très sereine d'ailleurs, c'est très particulier l'énergie là-bas. Mais du mois de septembre jusqu'au fin mars, il y a cette chasse dirigée contre les dauphins. Et donc, chaque année, enfin, l'année précédente, en 2022, en 2023, il y a presque 600 dauphins. Et petites baleines, toutes espèces confondues. Il y a à peu près 5 ou 6 ou 7 espèces qui sont tuées. Et en fait, ça ne profite qu'à une toute petite partie de la population taïji qui sont ces pêcheurs, en fait. Et ce que j'ai compris, c'est que la ville de Taïji en soi, je crois que la majeure partie des habitants ne sont pas forcément pour cette pratique. Mais la chasse aux dauphins était pratiquée dans d'autres régions du Japon. Mais là, du coup, c'était plus de l'ordre de la tradition. Enfin, c'était des vestiges de ça. Alors qu'à Taiji, ce qui est différent, c'est que c'est très fort lié à l'industrie de la captivité. En fait, le Japon est l'un des pays qui a le plus de delphinariums au monde. C'est quand même assez percutant parce que c'est petit, le Japon. Et donc, à Taiji, c'est un peu le point zéro du trafic des dauphins. Ce qui se passe, c'est que, en fait, les bateaux de pêche rabattent ces groupes de dauphins ou de globicéphales, de pseudorques, enfin voilà, les espèces qu'ils peuvent trouver. Et ils prélèvent quelques beaux spécimens que des entraîneurs de dauphins vont venir sélectionner. Donc, ils sont là au moment de la capture et un peu avant les massacres. Et donc, voilà, ils en capturent certains et ils vont être vendus pour de très grosses sommes pour des delphinariums au Japon ou ailleurs en Asie. Mais aujourd'hui, le nombre de captures excède la demande. Donc, ils ont créé une espèce de ranch à dauphins dans la baie à côté. En fait, il y a plein de petits enclos dans une baie. Et je crois qu'il y a à peu près 200 ou 250 dauphins qui attendent là. C'est vraiment très, très spé. C'est très Kafka, l'énergie là-bas. Et en fait, au Japon, tout le monde adore les dauphins. Mais quand on interroge les enfants et la plupart des familles, Ils disent oui, on adore les dauphins, donc on va au delphinarium. Et donc, je dirais qu'il y a pas mal d'années de retard sur la conscience qu'on peut avoir en Europe ou aux États-Unis par rapport à la captivité, où en fait, ces familles qui vont sans aucune mauvaise volonté, hein, mais ils vont parce qu'ils n'ont juste pas l'information ou la conscience. Voilà, ils ne se posent pas la question de bah, d'où viennent ces dauphins. Et en fait, la plupart de ces dauphins proviennent de ces chasses. Donc, j'essaie vraiment de faire circuler l'information, mais d'une manière qui n'est pas culpabilisante, en fait. Parce que j'ai réalisé que au Japon, bah, la mentalité est très différente. Il y a cette puissance du collectif qui est très présent pour le meilleur et parfois pour, enfin, je dirais pas le pire, mais voilà, parfois c'est pas top. Où les gens, en fait, ont peur de revendiquer ou de s'engager pour des causes qui peuvent leur tenir à cœur, de peur de l'ostracisme ou d'être rejetés, en fait, ou d'être mal vus par la société, par le collectif. Et donc, c'est voir comment on peut inviter les gens à to care, enfin, de s'engager et de pas détourner le regard par les rituels, par la beauté, par la poésie, et par l'espérance. Voilà.
Et c'est comme ça que ton projet, le projet Anima, est né.
Oui.
Il y a une magnifique vidéo de la cérémonie de 2023 que je mets en lien dans la fenêtre de l'épisode. Est-ce que tu peux nous parler plus de ce projet? Il va y avoir donc une cérémonie, la cérémonie 2024, en avril. Qu'est-ce que vous faites exactement dans ces cérémonies, en fait?
Oui. Alors, en fait, déjà, je vais partir sur le nom du projet Anima, qui est un nom tout simple, mais donc c'est le latin anima qui signifie âme. Donc c'est la racine du mot animal, mais aussi animiste. Quand j'ai initié le projet et que, en fait, l'argument qu'oppose tout le temps le gouvernement japonais, c'est la tradition, c'est la tradition. Laissez-nous tranquilles. Et je me disais, mais en fait, c'est quoi la tradition? Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Donc ça m'a poussée à aller vraiment voir dans bah, les racines profondes du Japon et de me dire bah, quel était ce lien en fait particulier qu'avait le peuple japonais avec la mer, parce que c'est quand même un peuple de la mer et qui dépendait jusqu'au début du 20e de leur survie de la mer en fait. C'était poisson ou cétacé. Mais même avant ça, en fait, ce que j'ai compris, c'est que voilà, la religion qui est pratiquée au Japon, bah, il y a le Shinto et le bouddhisme. Mais le Shinto a des racines animistes très, très profondes. Et on voit que la nature, en fait, est vraiment vénérée à la base. Et qu'il y a ce très joli proverbe qui dit, il y a 8 millions de dieux dans la nature. Donc, c'est vraiment dans chaque pierre, chaque ruisseau, chaque montagne, chaque baleine, chaque dauphin, il y a cette âme précieuse. Et qu'après, je suis allée voir qu'il y avait certains villages qui pratiquaient la chasse à la baleine, mais qui avaient des tombeaux dédiés aux baleines, qu'il y avait des tombeaux dédiés au fœtus de baleine, que à chaque fois qu'ils tuaient une baleine, il y avait une cérémonie pour cette baleine, que il y avait des moines et des nonnes qui leur donnaient un nom spirituel, et donc il y avait un rite funéraire autour du pardon et de la gratitude, tu vois, mais vraiment des trucs assez interpellants. Et je me suis dit, ok, bon, ça, c'est la tradition, mais là, la manière dont ils le font aujourd'hui, c'est juste un massacre en fait. Et donc cette histoire de cérémonie, de rituel, c'est de dire, bah, est-ce qu'on ne peut pas inviter les communautés japonaises à se souvenir en fait de ce lien au sacré, à la nature qui fait partie de quelque part de leur culture, de leur quotidien. On le voit encore dans plein d'aspects de la culture japonaise. Et donc il y avait cette idée de renouer avec les racines. Et après cette cérémonie qu'on appelle la cérémonie des bateaux de prière ou des petits bateaux tressés. En fait, quand j'ai appris qu'il y avait 500 ou 600 dauphins qui avaient été tués en l'espace de quelques mois, je me suis dit, mais c'est énorme. Enfin, moi, je pensais que c'était genre 100 dauphins. Je me suis dit, comment annoncer ce chiffre sans que ça soit quelque chose de désincarné? Tu vois, on peut dire 500, on peut se dire assez horrible, mais de créer un lien émotionnel direct entre ces vies qui sont éteintes en silence, loin des yeux, loin du cœur, et bah voilà, de créer un lien émotionnel à ces âmes. Et j'avais entendu parler d'une très belle initiative d'une activiste japonaise, enfin américaine japonaise, qui s'appelle Peggy Oki. Mais en fait, elle appelle ça les rideaux de baleines origami. Donc en fait, elle invitait les gens, enfin y compris, enfin surtout des enfants, à faire des origamis en forme de baleine. Et après, il les exposait dans un très grand espace pour voir en fait le nombre de baleines qui avaient été tuées chaque année ou sur l'espace de chaque année. Donc, pour se rendre compte en fait dans un espace ce que ça représentait. Et je me suis dit, ah, ça c'est génial. Et puis après, je me suis dit, bon, les origamis, c'est pas top parce que je voulais les faire flotter dans la baie où sont tués les dauphins. Enfin, après la saison de chasse. Je me suis dit, bon, les origamis, bon, ça va se décomposer, mais bref. Et je me suis dit, bon, bah, on va faire ça en matière organique avec des feuilles et des fleurs. Et l'une des artistes qui a participé à la première cérémonie, qui est une chanteuse, mais aussi un peu chamane, et elle adore tresser. Elle fait des tresses tout le temps, des colliers, des. Enfin, voilà, elle est très connectée au monde végétal et je l'ai appelée, je lui ai dit, est-ce que tu serais d'accord de m'aider? Et elle m'a dit OK. Et donc, on a commencé à communiquer là-dessus. Et en fait, cette idée de demander à des volontaires du Japon entier de tresser ces bateaux de prière. Et en fait, c'était génial parce que la plupart de ces personnes qui ont tressé n'avaient jamais entendu parler du massacre des dauphins. Et après, ils disaient, bah, je vais tresser avec mes enfants. Et donc, ils avaient ces discussions avec leurs enfants autour de ça. Et le jour avant la cérémonie, en fait, il y a eu des cartons et des cartons qui sont arrivés à l'hôtel. À la réceptionniste, il n'a pas compris. Et on les a ouverts et en fait, c'était plein de bateaux. Et ce qui était génial, c'est que ça venait de plein de régions du Japon différents. Donc, les végétaux qui avaient été utilisés, les plantes qui avaient été utilisées étaient différentes. Donc, il y avait cette diversité. Et en fait, nos chambres d'hôtel étaient recouvertes. On a l'impression que c'était une jungle. Et donc, on les a amenés le lendemain avec le lever du soleil et on les avait flottés dans la baie et aussi à l'extérieur de la baie. J'avais un artiste, un ami artiste qui habite sur l'île où on habite, qui avait fait cette petite barque en bambou tressé exprès pour la cérémonie que j'avais travaillée jusqu'à Taiji. Et on avait mis tous les petits bateaux et j'avais tiré ça, j'avais nagé quoi, à travers la baie en tirant cette petite barque en bambou, et j'avais relâché les bateaux de prière à l'extérieur de la baie pour symboliser quelque part le retour de ces âmes à l'océan. Donc voilà, donc c'est très poétique, c'est très symbolique, et en même temps, ça permet de sensibiliser. Et donc les cercles s'agrandissent de plus en plus, et c'est chouette, il y a de plus en plus de personnes qui nous écrivent pour dire, bon, on ne savait pas, on veut participer, et voilà.
Magnifique. Et tu as une campagne de crowdfunding pour le projet Anima qui se termine quand?
Le 22 avril, le jour de la cérémonie.
Ok.
Donc, il reste encore 12 jours.
2 jours à partir de l'enregistrement du
Voilà, c'est
podcast.
ça.
Donc, pour ceux qui nous écoutent, vous avez encore une semaine si vous voulez participer à cette campagne de crowdfunding. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi personnellement, donc je m'identifie pas comme une activiste. Cela dit, je trouve que la nature m'a tellement offert, m'a tellement aidée dans mon processus intérieur, rien que par l'expérience que j'ai faite avec toi, d'être sur le bateau, de plonger avec les cétacés, mais aussi de diverses façons, que j'ai envie de rendre en fait comme ce que tu fais, comme si c'était un ah maintenant j'ai été touchée par quelque chose, j'ai ce devoir de sensibiliser, d'avertir et puis d'aider à la préservation. Et j'ai l'impression qu'en faisant ça, il y a comme un lien qui se crée encore plus fort avec la nature. Je ne sais pas si tu as ces ressentis-là aussi, mais comme s'il y avait vraiment une relation, une vraie relation qui se créait et quelque chose qui nous connectait encore plus. Le fait de passer ce pas de maintenant j'ai reçu, maintenant du coup je passe dans cette préservation et je reçois encore plus de mon engagement.
Oui, carrément. C'est exactement ça. Bah ouais, ça me fait penser à un activiste justement qui m'a beaucoup beaucoup inspirée dans sa démarche parce que ouais, pendant des années, j'avais du mal à me considérer comme une activiste ou une militante. Après, cette notion d'activisme sacré, moi, m'a beaucoup parlé et aussi de me dire qu'en fait, l'activiste et l'engagement et la joie n'était pas antinomique. Tu vois, j'avais l'impression que pour être engagée et pour être sérieuse dans ça, fallait souffrir parce que la Terre souffre. Tu vois, quelque chose de cet ordre-là. Et que, il y avait, enfin, j'exagère un peu, mais que, de se dire que dans cet engagement, justement, cette reliance à la nature et la joie qu'elle peut nous procurer et quelque part le soutien qu'elle peut nous procurer, cette nourriture, c'est tellement essentiel parce que l'idée, c'est pas de de s'épuiser ou de se sacrifier. C'est une invitation à coévoluer avec elle, en fait, et de participer à ce processus d'évolution positive dont on fait partie, cette évolution de la biosphère. Et voilà, cet homme dont je voudrais parler, il s'appelle John Seed. C'est un activiste australien. Enfin, il n'est pas que activiste. Je crois qu'il doit avoir entre 70 et 80 ans maintenant. C'est l'un des cofondateurs du travail qui relie avec Joanna Macy, qui est une femme que j'admire profondément également. Et qui lui, ben, en fait, il parlait d'un moment où en fait, il était en train de défendre la forêt tropicale australienne, la forêt primaire australienne. Et que ben, voilà, il était là avec d'autres activistes à s'interposer vraiment physiquement entre les bulldozers et les arbres. Et tout à coup, il a une forme ouais, de réalisation ou d'éveil. Il s'est dit, mais en fait, c'est pas moi, John Seed, qui protège la forêt. En fait, c'est l'intelligence de la forêt qui s'exprime à travers moi pour se protéger. Quand j'ai dit ça, j'ai un espèce de déclic de me dire, mais en fait, oui. Et qu'il disait, mais à ce moment-là, je n'étais plus séparée de la forêt. En fait, je faisais partie de la forêt. J'étais quelque part une expression de l'intelligence de la Terre qui bah, essayait de se protéger elle-même. Et je trouvais ça tellement beau. Bah, voilà, de se dire qu'on n'est pas séparés parce qu'on se considère comme étant séparés, on se vit comme étant séparés de la nature, mais en fait, non. Et on essaie de se réapproprier, de se souvenir de ce lien. Et que pour moi, il y avait quelque chose de très porteur aussi. Et c'est ce que je lis aussi dans le regard de la baleine, par exemple, du cachalot, où je me dis, bah, c'est une espèce qui a été vraiment très fort impactée par la chasse baleinière. Ils ont vraiment été massacrés. Et certainement, ils gardent le souvenir de ces confrontations très violentes avec notre espèce. Mais jamais ils vont essayer de. Enfin, ils sont pas rancuniers, quoi. Et quand ils me regardent, j'ai pas l'impression qu'ils me jugent ou qu'ils me poussent à la culpabilité. Mais que c'est plus un regard qui dit, mais on est là, en fait. On est à vos côtés, on est avec vous. Et c'est peut-être juste une histoire que je me raconte, mais je sais pas. Il y a quelque chose de l'ordre de cet amour qui est là. Cet amour peut être un moteur. Et justement, ouais, je vais terminer sur ces paroles de Satish Kumar aussi, que j'ai eu la joie de rencontrer à deux reprises. Et on a aussi coécrit une nouvelle sur la baleine avec Olivier Morel aussi, qui est apparu dans un livre qui s'appelle Les Utopiennes, qui est un très chouette recueil de nouvelles de 2043, je crois, si je ne me trompe pas. Des nouvelles utopistes de 2043. Et donc Satish Kumar, il disait. Oui, on dit beaucoup, il faut sauver la planète, mais quelque part, quand on dit ça, déjà, ça peut paraître un peu présomptueux de dire je vais sauver la planète, mais aussi ça peut paraître être une tâche tellement énorme que la plupart des gens vont se dire bah, moi, je suis incapable de sauver la planète, donc je vais. Enfin, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Mais il dit mais la planète, elle a juste besoin d'être aimée. Et c'est ce que disait mon amie Abigail également, elle disait mais la planète, elle n'a pas besoin d'être sauvée, elle a besoin d'être aimée. Et Satish Kumar, il disait, bah, la plupart des personnes ont la capacité d'aimer, d'être en amour. Voilà, si on peut se relier à cet amour, bah, c'est le moteur qui va nous porter en avant dans la durée.
Merci beaucoup. Tellement beau, oui, d'être aimé et puis d'être respecté aussi.
Oui.
Et je pense que ça, c'est une notion où parfois on oublie un peu. On a l'impression que la nature, c'est juste là et en fait, on peut détruire et en fait, on s'en fout. Alors que non, c'est minimum dans l'amour. La première étape, ce serait presque le respect, de se rendre compte que c'est un organisme vivant et.
Oui, c'est pas juste une ressource dans laquelle on peut aller puiser.
Voilà.
Ouais.
Et en tout cas, merci pour ton partage au sujet de l'activisme. C'est vrai que parfois, moi aussi, j'ai ces ressentis que il y a quelque chose de très dur dans l'activisme. Alors que, par exemple, bah, avec le projet Anima, tu as laissé ta créativité de femme s'exprimer à travers ça et que finalement, bah, c'est un projet qui relie la communauté, l'art, qui est fait à ta façon. Ce qui ne veut pas dire qu'un activisme plus frontal n'a pas sa place aussi, mais qu'en tout cas, il faut faire des choses qui nous parlent. Et puis rappeler aussi peut-être à ceux ou celles qui nous écoutent que, par exemple, moi aujourd'hui, je suis à une saison de ma vie où Je ne mets pas forcément l'énergie dans la création d'un projet associatif ou engagé de cette manière-là. Par contre, très régulièrement, je vais donner à des associations qui me parlent et qu'on n'est pas obligé de donner. Voilà, on donne dans sa mesure, mais je sens que ça me connecte à quelque chose. Donc, voilà, et puis voilà, des choses qui vous parlent. Donc, si cette campagne vous parle, voilà, il est encore possible de
Merci.
participer à ce beau projet.
Merci beaucoup, Anouk.
Malena, j'ai encore quelques questions pour toi. Il y en a une qui va sûrement te faire rire parce
D'accord, je ris
que.
déjà. Ouais.
Non, mais en fait, quand on plongeait ensemble en Égypte, j'étais absolument fascinée par ton énergie, dans le sens où j'ai l'impression que tu fais les choses avec conscience. Et quand tu plonges, c'est quelque chose que je ressens encore plus, notamment parce que pour moi, tu as vraiment l'art de la lenteur. Alors quand tu plonges, tes palmes vont très lentement, il y a quelque chose, genre le temps, c'est une autre time reality. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec le temps et la lenteur et ce que ça t'apporte finalement de ralentir? Parce que moi, il me semble que tu ralentis, surtout quand tu es sous l'eau.
Très exactement. Ça me fait vraiment, oui, ça me fait vraiment rire parce qu'en fait, je me suis fait faire un tatouage à Bali
D'accord.
et c'est une image qu'a dessinée une amie et ça s'appelle Slow Down. Et ça ressemble à la fois à un cachalot, mais en fait, c'est un escargot. C'est un truc très abstrait, hein. Et parce que quand j'étais à Bali, j'avais l'impression d'aller à 200 à l'heure tout le temps et j'ai pas du tout l'impression d'être lente. Mais effectivement, quand je vais dans l'eau, enfin, je pense que l'élément eau, il nous amène vraiment à basculer dans un état de conscience autre, en tout cas élargi. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Et il y a ce temps qui se dilate ou même qui s'arrête. Et dans le livre, bah, justement, Marie-Hélène, elle parle du corps immergé comme d'un corps aquatique, en fait. Et je sens que physiologiquement, il y a quelque chose qui se métamorphose quand je vais dans l'eau et surtout quand je m'immerge. Mais par exemple, dans l'apnée, bah, très concrètement, très basiquement, il y a ce ralentissement du rythme cardiaque qui s'opère. Donc forcément, il y a cette lenteur qui s'installe. Et après, je pense qu'avec les cétacés, en tout cas dans l'approche que je peux avoir, j'y mets une extra dose de lenteur. Parce que même après toutes ces années, j'ai peur parfois de les déranger. Tu vois, et je préfère y aller vraiment avec délicatesse. Et au lieu d'aller vers eux, enfin même si je me dirige un peu vers eux, mais créer cet espace autour de moi ou entre nous où la rencontre peut potentiellement avoir lieu. Je vois que dans cet espace, j'invite l'autre s'il veut venir ou pas. Et je crois que c'est pour ça qu'au début, je palme lentement parce que j'essaie vraiment de lire un peu l'énergie de l'autre et comment ça répond de l'autre côté. Et après, je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais avant que je ne sois vraiment au contact de l'océan, pas au quotidien, mais voilà, que ça fasse vraiment partie de ma vie. Il y avait une époque où je parlais très, très vite, où j'avais un débit de parole assez rapide quand j'étais parisienne et personne ne me croit quand je dis ça. Et je crois qu'il y a vraiment un truc qui a switché. Je ne sais pas si c'est dans mes neurones ou quoi, mais où il y a eu cette forme d'infusion de cette vibration océanique, ou cette SN, ou je ne sais pas, que j'ai vraiment reçue au fil des années et qui m'a un peu transformée.
En tout cas, c'est vrai que d'être sous l'eau, moi aussi, ça me fait énormément de bien. Quand on était sur le bateau, je me disais, allez, essaye de, pas de mimer Léna, mais de t'inspirer de son énergie pour essayer de faire les choses un peu plus tranquillement. Parce que moi, j'avais l'impression de vraiment capter cette lenteur que tu dégageais. Mais dans ma vie, j'ai l'impression pareil d'aller à 100 à l'heure. Et quand je pratique de l'apnée, ça m'aide vraiment à ralentir, en fait, à descendre dans mes profondeurs. Et ça fait tellement de bien, enfin, juste ça.
Oui, enfin, je pense que l'apnée, en fait, appelle cette lenteur. Et je crois que l'apnée, c'est l'un des seuls sports où on est vraiment invité à être de meilleurs méditants ou installer cette lenteur pour justement être plus performant. Ça peut paraître antinomique, mais l'un des premiers enseignants de l'apnée, il disait, bah, je détestais la méditation avant de commencer l'apnée et l'apnée m'a amené à aimer la méditation et parce que j'ai compris que si c'était un outil sur lequel je pouvais m'appuyer pour être un athlète plus performant, enfin un meilleur apnéiste. Donc l'apnée, oui, forcément, ça amène cette lenteur et tout ce travail sur la respiration. Et puis, bah, toi qui pratiques le yoga, après, je ne sais pas si c'est vrai, je l'ai lu quelque part, mais le pranayama, donc le yoga du souffle, j'ai lu, je sais plus dans quel livre, mais que dans les anciens textes indiens, ça se référait de manière très précise à ce temps de rétention, en fait, entre l'inspire et l'expire, qui est vraiment ce moment suspendu, et qui décrivait ça comme, voilà, cet instant où le mental chavire. Et en apnée, voilà, après, ça dépend dans quel état d'esprit on se trouve, mais il y a vraiment cette fenêtre qui s'ouvre où, si on arrive à contacter ce lâcher-prise et quelque part cet abandon, bah, le mental chavire et on passe dans un état modifié de conscience.
Et dans tes cours d'apnée aussi, parce que tu enseignes, tu invites vraiment à, à reconnecter justement au corps, à se détendre, et même au-delà de ça, enfin, dans la façon dont tu nous as accompagnés pendant le stage, tu nous as aidés aussi à, à reconnecter avec nos sensations dans le sens où, dans la rencontre avec les cétacés, c'est ce que tu as partagé aussi. On devait rester à l'écoute de, des cétacés, est-ce qu'ils viennent vers nous, de rester ouvert dans notre énergie. Donc, ton approche, elle est vraiment globale et elle nous amène à une reconnexion à nous et un retour à cette lenteur finalement qu'on peut vraiment vivre quand on est dans l'eau. Et ça, vraiment, je trouve que ça fait ta particularité. Donc, merci beaucoup pour ça. Ce sera ma dernière question, mais tu pourras ajouter quelque chose en plus s'il y a quelque chose d'autre que tu as envie de partager. Mais comment est-ce qu'on peut te soutenir dans tes projets? Comment on peut te servir peut-être pour les gens qui nous écoutent, servir ta mission? Voilà, on est plein à t'écouter.
Tu es adorable, c'est une bonne question, c'est une question difficile pour moi. Bah, très concrètement, je pense, voilà, il y a cette campagne qui a lieu. Comme tu disais, si chacun, chacune, voilà, s'il est en résonance avec ce projet, contribuer à, dans ses capacités, à sa propre, voilà, ce qui est juste pour elle ou lui, c'est super. Déjà, ça m'aide énormément parce que c'est vraiment, c'est que du bénévolat, en fait, toutes les personnes qui sont impliquées, y compris moi. Après, il y a ce projet, qui est en train de naître dans le cadre du projet Anima, qui est vraiment un projet beaucoup plus ambitieux et long terme, qui est cette création d'un sanctuaire pour les dauphins qui sortent du circuit de la captivité. Je ne sais pas si ce sera moi qui pourra mener le projet jusqu'au bout parce que ce serait quelque chose d'un peu révolutionnaire. Voilà, en tout cas dans le contexte culturel et politique du Japon, mais j'y crois très fort et j'ai beaucoup de chance d'être accompagnée d'experts dans le domaine, enfin, qui sont présentés dans le site. Je t'enverrai le lien, Anouk, parce qu'il y a un site que je n'ai pas annoncé encore sur les réseaux, mais qui est en ligne depuis quelques semaines, en japonais et en anglais. Je n'ai pas encore la version française, mais qui présente ce projet sanctuaire et les personnes impliquées là-dedans. Donc, il faut aller voir. Et puis, certainement, je sais pas si je vais lancer une nouvelle campagne de crowdfunding ou juste ouvrir le site aux donations. Pour les premières étapes de ce projet, on a identifié plusieurs lieux, plusieurs régions qui seraient, en tout cas, qui pourraient être de bons candidats en termes de, voilà, enfin, on a besoin d'une baie avec des conditions particulières et tout ça. Et donc, on en a identifié quelques-unes. Et la première étape, ce serait d'y aller, faire du location scouting, de faire aussi des prélèvements de l'eau dans cette baie pour voir voilà, si c'est des conditions favorables pour héberger ce sanctuaire. Donc, voilà, je vais commencer à démarcher des partenaires financiers, mais au début, je pense que ça va être sur base de financement participatif jusqu'à ce qu'on trouve des partenaires solides. Après, une autre manière de m'aider, bah, c'est d'aller acheter le livre qui apparaît aux éditions Mama pour mieux découvrir notre univers aussi avec Anne Paris et Marie-Hélène. Et bah, venir aux retraites que je propose, parce qu'actuellement, c'est bah, ma source de revenus principale pour nourrir la petite famille. Quand je dis la petite famille, c'est mes deux enfants, voilà, Naya et Manoa. Donc voilà, comme je suis maman solo, bah, je suis dans cette période de ma vie où Je revois beaucoup de mes croyances autour de l'abondance et de la structure. Et donc, c'est une période de transition assez particulière. Donc, voilà, c'est les différentes manières de me soutenir et de soutenir mes enfants indirectement.
Et je mettrai tout ça en lien dans la fenêtre de l'épisode et je ne peux que recommander tes stages et également ce magnifique livre qui est tellement poétique, tellement bien écrit.
Merci.
Donc vraiment, c'est hyper agréable à lire. Les voix de l'eau que tu as écrit donc avec Anne Paris et Marie-Hélène
Oui.
Sulmoni. Merci beaucoup, Léna, pour cette super conversation. J'ai adoré ce moment avec toi.
C'était super riche, merci.
Merci beaucoup.
Merci, Anouk.
Merci infiniment d'avoir été avec nous pour cet épisode. Personnellement, ça m'a vraiment boosté dans mon désir d'entreprendre et de redonner à la nature, de redonner à la planète. C'est quelque chose que je fais déjà à chaque fois que je sors un programme en ligne. Je donne 1 € par personne inscrite à une association qui me parle. Et donc, à la fin de mon programme, je me dis, bon, ben, voilà, je donne à une association. Et je sens que, alors, c'est pas grand-chose. Certains se diront, ben, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose. Et c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à cultiver. Chaque année aussi, je donne à des associations. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent donner de leur temps. Voilà. En fait, chacun donne. À la mesure de ce qu'il peut donner et de la manière dont il peut donner. Léna et moi, on adorait savoir ce qui vous a le plus parlé dans cet épisode. N'hésitez pas à venir nous le dire en laissant un commentaire sous le post de l'épisode sur Instagram. Et puis comme toutes les semaines, si vous appréciez le podcast, alors ça serait fantastique! Maintenant, je vais le dire en chantant, je vais faire des choses un peu fun, peut-être que ça vous motivera à y aller. Mais je vous remercie vraiment si vous l'avez déjà fait, si vous avez laissé 5 étoiles et pas 5 étoiles. Au début, je disais 5 étoiles, donc bien 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. It's a game changer for me, my friend. It really is. Et puis, si personne ne te l'a dit aujourd'hui, ma belle, alors laisse-moi te rappeler que tu mérites une vie pleinement épanouie. Tu mérites le meilleur. Tu mérites de vivre des choses qui te font vibrer. Prends bien soin de toi et je te dis à la semaine prochaine.